Bonsoir Aude, on vous retrouve demain à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, les séries. Ce soir, Iris Bray, Romain Burel, Antoine Guillot sont autour de cette table. C'est une première pour Iris et Romain, car j'ai décidé de programmer de façon régulière des disputes spéciales séries télé, ce qu'on avait déjà fait quand même quelques fois, mais plus régulièrement maintenant les mardis soirs. L'offre est telle et sa qualité bien réelle que cette récurrence s'imposait. Bienvenue donc à Iris Bray et Romain Burel. À notre affiche pour cette première, Loin de chez nous de Fred Scotland, diffusé sur France 4. Transparent de Jill Soloway, la saison 3, édite en France, arrive le 4 novembre prochain sur OCS City. Et puis on évoquera aussi plus rapidement Better Things de Pamela Adlon et Louis C.K., High Maintenance de Ben Sinclair et Katia Blichfeld, et Gomorrah, la saison 2, la série créée par Roberto Saviano. Vers 21h20, Lucille Como nous entraînera dans le petit salon pour débattre d'un sujet en lien avec le champ artistique dont nous parlons ce soir. Et bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour le Festival du Livre de Mont-Sartou dans les Alpes-Maritimes du 7 au 9 octobre. Et nous ouvrons cette émission avec une production française, ce qui nous évitera d'emblée le procès en américanophilie. C'est assez malin, en effet. Il s'agit de Loin de chez nous, une série créée, écrite, réalisée et interprétée par Fred Scotland, qui a débuté dans l'écriture en participant notamment à la création d'Un gars, une fille, puis de nombreux autres programmes télé, tout cela après avoir fait 2 ans dans le 4e régiment d'infanterie de marine. Avec Loin de chez nous, il réunit donc 2 expériences, puisque l'action débute en décembre 2012 dans une base française en Afghanistan, alors que la France s'apprête à retirer ses troupes du pays. Fred Scotland, qui interprète le sergent-chef d'Ostali, à la tête d'un groupe de soldats qui s'est baptisé les Chats Noirs et qui ont des activités parallèles à leur mission. Et puis arrive sur la base une journaliste venue couvrir le départ des troupes.
Qu'est-ce qu'elle a dit ?
Cadeau pour Gueule d'Ange.
On lui donne maintenant.
Gueule d'Ange, à moi ! Allez, dépêche-toi.
C'est quoi ça ? Pas du vélo ici, non ?
Ça fait quoi ? À moi maintenant que t'es notre pilote ?
Oui.
Ouais ? Bah, moi et les gars, on n'a pas vomi une seule fois. Hein. Ta conduite est douce, souple, feutrée, voilà. Alors on se posait tous la même question. T'es homosexuel ?
J'entends rien, là. Non, caporal-chef !
T'es sûr ?
Oui, caporal-chef !
Ah, là, là, dommage. Voilà. On voulait t'offrir ce magnifique foulard. Celui qu'on porte tous.
On lui donne quand même ? T'es un chat noir, maintenant. On meurt pour toi, tu meurs pour nous. Et ce soir, c'est ta tournée.
Très bien, mais je... Ben merci beaucoup.
Ça va, Oula, ouais, t'emballes pas, hein, t'es un chaton encore. Hein. T'es pas à l'abri de faire des conneries. Hein. T'es un apprenti ici. D'ailleurs, à ce propos, ça serait quand même plus fair play de prévenir les talibans.
Et ben voilà pour cet extrait de Loin de chez nous, la série de Fred Scotland, et c'est Iris Bray qui a l'honneur de débuter cette dispute pour un premier regard sur cette série.
Alors, bon, c'est présenté comme une série un peu de genre sur la guerre, et en fait c'est une comédie, et je trouve ça assez réjouissant. Déjà, c'est un nouveau format qu'on voit peu en France, le 26 minutes, qui permet à mon avis à l'auteur de déployer plusieurs choses, et il y a une certaine ambition qui me plaît beaucoup. Déjà, la série n'est pas ringarde, ce qui en France c'est quand même assez rare, il faut le dire, et allez, ça commence.
Ouais. Il est bon d'énoncer des faits.
Bon, voilà, donc c'est quand même réjouissant. Il y a un vrai travail d'écriture, il y a un travail de mise en scène. C'est une série qui a été faite avec très peu de moyens. L'Afghanistan a été finalement tourné sur un parking en banlieue parisienne. Il me semble que c'était à Bry-sur-Marne même. Donc,
avec fond bleu et incrustations, oui, matte painting, enfin différentes techniques pauvres,
mais,
on va dire.
Voilà, mais c'est pas grave.
Les extérieurs en Espagne.
Je suis pas sûre,
ah, si.
Mais
bah, je vous
sûrement,
le dis.
D'accord. Mais en tout cas, ça passe. Enfin, à un moment, ouais. J'ai même cru que il y a une scène dans une forêt, je crois que c'était Fontainebleau.
Je pense que c'est Fontainebleau.
On
a tous pensé que c'était Fontainebleau.
C'est l'Afghanistan. Et ça ne m'a pas du tout dérangé, en fait, ce manque de moyens. Finalement, ils ont réussi à en faire une force en travaillant sur les dialogues. Et surtout, à mon avis, la chose la plus intelligente dans la série, c'est deux personnages féminins qui viennent un peu réveiller les troupes. Et ça, je pense que au niveau du scénario, c'était un truc assez génial, parce que du coup, on peut être dans la beaufrite masculine totale, avoir des vrais personnages de soldats, et qui s'est rééquilibré, en fait, avec ces personnages féminins qui, parfois, tout simplement, les regardent, et qui, parfois, amènent autre chose.
Ben voilà, un premier élément, mais avec Romain Burel qui tantôt opinait, tantôt désapprouvait.
Oui,
Romain.
Sur le manque de moyens qui se voit pas,
qui est une force, disait Iris.
Oui, qui est une force pendant
les scènes. Que ça se voyait pas.
Pendant les scènes de guerre, je suis pas sûr. Très honnêtement, on voit un peu la limite de l'exercice là. Effectivement, il y a très très peu d'effets spéciaux bien réussis, etc. Mais après, c'est pas exactement. C'est une série sur la guerre, mais c'est plutôt sur tout ce qu'il y a autour de la guerre, quoi, qui m'intéresse, notamment les rapports entre les soldats et ce qu'ils ont dans la tête. Je trouve que c'est probablement une des fictions qui montre le mieux ce qui traverse la caboche des soldats, notamment leurs fantasmes, leurs amitiés, leur psyché, un certain onirisme aussi qu'il y a dans la série, qui moi me fascine vraiment. Je trouve que c'est un des plus beaux, une des plus belles qualités de cette série, c'est que je la trouve très très onirique, voire hallucinatoire à des moments donnés. Et je trouve que c'est vraiment une série très très réussie. Maintenant, sur les personnages féminins, c'est vrai qu'ils sont incroyablement fascinante, quoi. Je trouve que leur façon d'évoluer dans un univers qui...
Alors, il y a la journaliste et puis il y a le médecin du camp, ouais, qui est une femme.
Qui reste, de les voir tous les deux évoluer dans un univers très très masculin, macho.
Au-delà du macho.
Au-delà du macho. Je me tords de rire à chaque fois que je retombe sur la scène où elle explique l'ovulation aux soldats.
Bah, il faut expliquer pourquoi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une femme afghane qui saigne, elle est rapatriée en hélicoptère, ce qui coûte énormément d'argent, et puis quand elle arrive sur le camp, on se rend compte qu'elle avait tout simplement ses règles. Et donc là, la femme sergent doit donner un cours sur qu'est-ce que c'est que l'ovulation chez la femme et l'écoulement de ce sang, qu'est-ce que c'est. Et ce qui est très drôle dans cette scène, c'est qu'en plus, je trouve qu'il y a la manière dont le comique est amené est géniale, puisque donc elle fait un vrai cours de biologie devant tous ces soldats qui sont un peu hébétés, et puis elle termine en disant, et donc les spermatozoïdes peuvent rester vivant dans le corps de la femme de 2 à 3 jours, quelque chose comme ça. Et là, ils crient tous « Ouais !»
Scène de joie.
C'est scène de vraie joie. Et donc, et ça crée un effet de surprise, je trouve, pour les spectateurs. Et il y a un truc tellement... On est dans la dérision, on rit. Enfin, c'est extrêmement léger. Et je trouve que c'est génial. En fait, c'est pas Homeland, quoi. C'est le contraire de Homeland. On n'est pas dans un truc où on est... Alors, je comprends ce que tu veux dire. On est à l'intérieur des soldats, mais on n'est pas dans un truc de machination, de guerre, etc., de stratagème. On est plus dans quelque chose, effectivement...
À hauteur d'homme ou de femme, en l'occurrence.
Voilà.
Ouais. Plus d'humain. Antoine Guillot, ton regard sur Loin de chez nous.
C'est un regard très circonspect, je dois vous avouer. C'est-à-dire, je me réjouissais, comme beaucoup, qu'une série française s'empare d'une thématique très contemporaine, c'est-à-dire nos soldats que nous envoyons là-bas et qui s'ennuient beaucoup et qui se demandent ce qu'ils font là, comme beaucoup de gens au moment où ils doivent partir. Donc tout ça était assez prometteur. Après, je suis embarrassé par beaucoup de choses dans la série. C'est vrai que le côté un peu pauvre de la production construction se sent beaucoup. Moi, excusez-moi, mais la forêt de Fontainebleau, j'ai du mal à croire qu'on est dans une forêt afghane. Et les incrustations sont pas très très réussies. Les plans généraux qui nous montrent le camp, c'est à peine si on arrive à le voir mal dessiné. Les véhicules en image de synthèse, ça sent vraiment l'image de synthèse. Donc, comme ça essaye de le faire, s'il en faisait justement une force, ça aurait pu être le Billy the Kid de Luc Moulet, c'est-à-dire prendre vraiment, on n'a pas de moyens et on va vous y faire croire par des effets de mise en scène ou en affichant l'artifice. Mmh. Mais là, ça essaye de le faire sans en avoir les moyens. Donc ça, c'est un premier problème, mais pourquoi pas? Bon, ça, on n'est pas obligé d'avoir de l'argent, on peut avoir du talent. Et moi, j'ai plus un problème sur cette manière de regarder et de montrer l'armée, parce que je la sens très crispée. Enfin, très crispé, on sent que Fred Scotland vient de là, c'est-à-dire qu'il a une vraie amitié, une vraie camaraderie avec ses soldats, et donc il veut les montrer avec cet esprit de corps, ce côté homme entre eux, on pense surtout à l'autre, etc. Mais il manque singulièrement d'une distance là-dessus, et quand on voit très vite que le modèle de cette série, c'est la série MASH sur.
C'est un modèle assumé, hein, je crois. Hein.
Oui, non, mais on le voit, c'est assumé, ça se ressent. Tout de suite, donc sur le mode dramédie, puisqu'on l'a pas encore dit, mais c'est vraiment ce créneau de la série américaine qui est de mélanger le drame et la comédie. Sauf qu'il y avait un point de vue dans MASH qui était quand même foncièrement antimilitariste et qui était une charge très très féroce à l'époque sur la guerre du Vietnam en parlant de la guerre de Corée. Et là, Scotland n'a aucune distance par rapport à ça. C'est-à-dire que exaltant l'esprit de corps, il en fait une série quand même foncièrement non seulement militariste mais très viriliste aussi, parce que ces personnages de femmes, on sent bien qu'elles sont là, pas en tant que personnages, mais pour équilibrer, justement, pour pouvoir ouvrir cette série à tout le monde. Et moi, je trouve ça extrêmement laborieux, sans parler, j'y reviendrai peut-être, du rôle que se réserve Fred Scotland lui-même, qui est gratiné.
On y reviendra. Mais à propos de gratiné, de dramédie, enfin, quelques éléments aussi, la dimension dramédie, moi, c'est ce qui me paraît le plus faible, parce que tant le drame a parfois une épaisseur, autant la comédie, c'est quand même pas toujours très évident. Il y a quelques bons moments, mais quand même sans plus. Et il faut surtout prévenir les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas encore commencé à regarder la série, qu'il faut surtout passer le premier épisode, qui est quand même calamiteux, vraiment, qui est pour moi, enfin, si j'avais pas dû le regarder pour cette émission, je me serais arrêté là, et ça aurait été dommage, parce que ça gagne par la suite. Vraiment, dans le premier épisode, il y a de la très mauvaise comédie, là, c'est vraiment du sous mash, avec le personnage du curé qui est vraiment,
très mal écrit,
alors que, si on va jusqu'au bout, quand même, il y a même plus de complexité. Bon, c'est pas d'une infinie subtilité, certes, je vois votre regard, Antoine Guillaume, mais enfin, quand même, je trouve que ça vaut le coup, même si l'économie, bah, vous en avez parlé, c'est vrai que les paysages d'Afghanistan incrustés, c'est quand même pas merveilleux, et l'économie se sent terriblement, je crois que c'est le 9e épisode, où on a tout d'un coup une sorte de best-of des 8 premiers pendant 10 minutes, pendant une chanson interminable, ça n'a pas d'autre raison que de faire 26 minutes. Donc là, on voit vraiment qu'ils ont dû batailler, et c'est bien de batailler, d'arriver à monter un projet sur lequel on croit. Mais pour relancer sur une chose positive, c'est que au début du 10e épisode, qui est le dernier de cette saison, je me disais, mais il ne va pas arriver à tout boucler. 26 minutes, il y a quand même trop de choses qui sont, trop de pistes ouvertes. Et je dois dire que c'est quand même un tour de force d'arriver à boucler presque tous les éléments très nombreux de l'intrigue, tout en laissant bien sûr une porte ouverte pour une possible saison 2. Donc quand même, voilà, il y a quand même une certaine maîtrise, mais après on peut revenir sur différents détails, points, Iris Bray.
C'est pas une série politique, et je pense qu'en fait, quand on commence à aborder la guerre, l'Afghanistan, on a presque envie qu'il y ait un parti pris ou qu'il y ait peut-être un sous-texte un peu plus puissant.
Oui, là, en effet, c'est Homeland.
Voilà, là, je l'ai dit.
On est à hauteur d'hommes et de femmes, on est dans une. Mais, si on regarde un groupe d'humains.
Mais parler de ces personnages féminins en disant qu'ils sont là pour rééquilibrer et que c'est quelque chose de facile, je suis pas d'accord. En fait, la plupart des séries françaises n'ont tout simplement pas de personnages féminins intéressants, et peut-être que lui-même, s'est rendu compte qu'il fallait qu'elles existent, et peut-être qu'il se bat un peu pour les faire exister, mais je trouve qu'elles apportent quelque chose vraiment de différent Et du coup, je trouve que c'est... Si elles avaient été absentes, si on avait fait... Voilà, où ça aurait pu être juste une infirmière. Enfin, ça aurait pu être autre chose. Mmh. Là, les personnages féminins sont essentiels. Et c'est même dans un dispositif narratif assez classique. C'est-à-dire qu'on fait entrer une journaliste. Donc, le spectateur va être avec la journaliste et découvrir le camp à travers ses yeux. Ce qui est extrêmement classique. Mais le fait que ce soit une femme change aussi les choses. Donc, oui, d'un certain côté, ça peut être viriliste. Mais de l'autre, je trouve qu'il y a une vraie attention, en fait, à ce point de vue féminin et d'amener l'onirisme, en fait, comme tu disais. Je trouve ça vraiment intelligent. Je pense notamment au début de l'épisode 3 avec la figure d'un lapin. Voilà, on a quand même des références finalement à Alice. Enfin, c'est assez... Je trouve que c'est assez riche, en fait, et peut-être plus subtil que ce que le début de la série laissait penser.
Bon, on est d'accord sur le début, quand même. Faut passer ce premier épisode. Romain Burel.
Maintenant, sur le politique, la dimension politique qui manque peut-être à la série, je crois que c'est complètement assumé de la part de Fred Scotland. J'ai lu une interview de lui où il expliquait que ça ne l'intéressait pas. Il dit, moi je sais pourquoi on est en Afghanistan, donc je n'ai pas envie de répondre à cette question-là. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir ce qu'il y a dans la tête des soldats. Ce qui est plus dommageable, c'est que parfois, c'est sa fascination pour la guerre, en fait. Je trouve, moi, qui m'embête un petit peu. C'est peut-être le bémol que moi j'apporterai à la série. Il y a quelque chose de fascinant. Pareil, dans une interview, il explique qu'il trouve la guerre beau, il trouve que c'est beau, la guerre. Mmh. Et parfois, il y a un peu de complaisance sur le côté, oui, viriliste, etc. Et puis sur, voilà, sur l'affrontement, quoi. Après, c'est une fascination des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a un vrai respect aussi de ce que sont les Afghans, je trouve, dans le film. On n'est pas dans la série. On n'est pas sur quelque chose d'absolument français, sur, voilà, on fait un travail important, différent des Américains, etc. Tout ça, c'est assez bien expliqué. Il y a une petite conversation comme ça, à un moment donné, où un des Afghans explique que, pour les Afghans, les Français et les Américains, c'est la même chose. Mine de rien, en passant comme ça, il y a des petites choses qui sont semées quand même.
Oui, c'est vrai que le seul parallèle qu'on peut faire, Antoine Guillot, je vous redonne la parole, c'est avec Pierre Schoendoerffer, autre, on va dire, cinéaste, pour le coup, qui avait cette expérience militaire et qui en a fait des films, même si Pierre Schoendoerffer ne se cachait pas, et de droite, qui est quand même des gouttes de la guerre, plutôt qu'autre chose, que ce soit la 317e section, bien sûr, mais même jusqu'à Dien Bien Phu, qui était quand même son trauma originel en tant que militaire, Pierre Schoendoerffer. Vous parlez de cette place que se donne Fred Scotland, auteur, réalisateur, interprète.
Oui, et Schoendoerffer ne se sentait pas obligé de mettre des personnages féminins pour équilibrer. Oui,
mais parce qu'il n'avait pas du tout à l'époque.
Oui, mais parce qu'il parlait d'une expérience, effectivement, sur lequel il avait un regard. Moi, je me méfie toujours du c'est apolitique, je n'ai pas d'idée là-dessus, parce qu'on sait très bien généralement ce que veut dire apolitique. Mais le personnage de Fred Scotland, effectivement, il se soigne, quoi. C'est le personnage un peu buriné, comme ça, le vieux cow-boy qui n'a qu'à regarder une femme pour qu'elle lui tombe dans les bras, qui souffre un peu, mais qui en a quand même tellement sous le coude, etc. Je trouve ça très, 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 très complaisant, mais à l'image de cette manière, effectivement, de filmer les soldats. Mais à ce moment-là, il faut assumer. Moi, je sens une série qui ne s'assume pas complètement, en fait. C'est-à-dire que si elle s'assumait franchement, exaltant l'esprit de corps, comme John Wayne dans Les Bérets Verts, pourquoi pas.
Comme votre ami Clint Eastwood sait faire aussi, à propos de gens de droite.
Mais certainement, mais qui, je pense qu'il assume plus clairement son point de vue sur la virilité et sur la fatigue du corps, sur question de l'héroïsme. Enfin, il y a quand même plus de réflexion sur le héros chez Clint Eastwood que chez Fred Scotland, où là, son personnage est quand même tout d'un bloc, même si de temps en temps, on sent la souffrance, quoi.
Bon, Iris, est-ce que vous avez été sensible, Iris Bray, au personnage de Fred Scotland?
En fait, j'ai commencé la série ne sachant même pas qui était Fred Scotland, pour être totalement honnête. Je ne savais même pas qu'il était acteur dans sa série. Et bon, oui, je trouvais ce personnage-là un petit peu caricatural. Mais pourquoi pas? Enfin, je ne sais pas. Je pense que... je trouve qu'on est tellement dur déjà avec les séries françaises qu'il faut leur laisser aussi un peu de temps. Je pense que la saison 2, il faut voilà qu'il amène autre chose, un autre bagage, peut-être qu'il assume plus tout simplement ses positions. Donc, bon, oui, on a envie que ça aille toujours un peu plus loin en France. Là, il y a le manque de moyens, bah, c'est comme ça, je veux dire, c'est France Télévisions, ils font ce qu'ils peuvent.
Ils ont rattrapé le projet qui devait être pour Canal pendant des années, et puis ça n'a pas été fait, bon.
Moi, je veux lui laisser sa chance.
Romain Burel, pour finir.
Ah, s'il y a quelque chose qu'on peut souhaiter, c'est qu'ils aient une rallonge un petit peu d'argent pour la saison 2. Hein,
c'est signé la saison 2, vous savez, ou pas?
Je ne sais pas encore.
Non,
je
sais pas.
Non. On attend des infos de vous, bien sûr. Attention, hein. Faut venir avec des informations dans la dispute, vous savez.
Celle-ci, on l'a pas.
Bon.
Par contre, moi, je suis ravi quand même de voir que enfin la fiction française, depuis quelques années, s'empare des thèmes de la guerre, notamment de nos guerres, qui étaient logiquement, c'est un espèce de poncif qu'on balançait en disant voilà, Hollywood, c'est raconter ses guerres, ses blessures, etc. En France, on est incapable. Il faut attendre 30 ans pour qu'on traite de quelque chose.
Il y a longtemps, c'était le cas, oui.
C'est vrai. Pour une fois, là, depuis.
Ou alors les films étaient interdits, mais bon, ça, c'est un autre problème.
Non, c'est vrai. Mais depuis Force spéciale, depuis ce film dont j'ai oublié le nom, c'est qui s'appelait. Ah mince. Voilà, je trouve que ça y est, il y a un espèce de revival dans la série française et dans la fiction française d'assumer de parler des guerres que nous sommes en train de vivre en ce moment.
Voilà. Pourquoi il faut voir notamment Loin de chez nous de Fred Scotland qui est diffusé sur France 4 en ce moment. Ça se termine, je crois, la semaine prochaine, peut-être. Exactement. La diffusion. Et il y a une intégrale qu'Antoine Guillot regardera. Donc, mardi 18 octobre, c'est à partir de minuit 5 pour revoir les 10 épisodes et pour changer d'avis, peut-être.
Je suis pas sûr. C'est radicalement, c'est sûr.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Transparent, mais aussi de Better Things, High Maintenance et Gomorrah. Vous avez retrouvé le titre du film, Romain ?
Oui, Voir du pays.
Voir du pays, très bien. On va voir du pays tout de suite dans le petit salon de Lucille Gomeau. Bonsoir, chère Lucille. Vous avez fait l'impasse sur Loin de chez nous, vous qui dévorez les séries toutes les nuits.
Ouais. On n'a pas week-ends. Parlé de Generation Kills, qui était la seule référence que j'avais, moi, en termes de séries qui se passent dans un bataillon. Mais bon, ça, c'est une série américaine.
Bon,
qui est très bien.
Et ce soir, une question très importante. Peut-on aimer une série quand on n'aime pas les personnages ?
Oui, vaste question, et qui n'est pas accessoire et qui ne se résume pas, j'espère, à juste une succession d'exemples. Ça revient à se demander si la réussite d'une série repose sur la constitution de personnages, et en particulier de personnages aimables. J'ai réfléchi aux séries qui choisissent des milieux où on n'est a priori pas très sympathique. Exemple, la mafia. Les séries de mafia sont légion, on va parler tout à l'heure de Gomorrah. La plus emblématique est probablement Les Sopranos, dont le héros est Tony Soprano. Gros homme bourru, violent, impulsif, autoritaire, infidèle, a priori peu aimable. Et pourtant, qui n'a pas pleuré la mort de son acteur James Gandolfini il y a quelques années, pleurant surtout Tony, personnage auquel on s'attache après des dizaines d'épisodes de fréquentation et l'exploration scénaristique de failles psychologiques qui l'ont rendu aimable et aimé. Alors même chose pour les dealers de The Wire, pour le froid et calculateur Don Draper ou pour Dexter, le psychopathe. Remarquons que dans tous ces cas, l'amour que l'on porte au personnage repose du point de vue de l'économie du récit sur le dévoilement de traumas ou d'héritages terribles qui expliquent leur violence et provoquent la compassion. Le personnage emblématique de ce point de vue, la série qui exploite sans doute le mieux ce fonctionnement narratif primaire, c'est le cynique Dr. House, héros dont tout l'intérêt repose sur le mécanisme suivant. Sous la carapace cynique se cache un cœur d'or. Alors est-ce à dire qu'une série n'est qu'affaire de personnages ? Ça voudrait dire qu'une série qui a constitué un bon personnage peut s'arrêter là, elle a fait le boulot. Il suffit alors de tenir sur le temps long et ce n'est pas gagné. De nombreux personnages qu'on aimait finissent par nous déplaire et même par nous taper sur le système. De l'avis de beaucoup dans les journaux et sur les forums spécialisés, c'est le cas de la série américaine Girls, de et avec Lena Dunham, qui repose entièrement dès la première saison sur la constitution d'un groupe de jeunes new-yorkaises aimables, dont les caractéristiques se sont tellement fixées, voire radicalisées au fil du temps, qu'elles sont devenues finalement d'insupportables pestes aux yeux de téléspectateurs déçus. Alors j'ai regardé un peu les forums de séries pour constater la violence des commentaires. Je cite par exemple, pour finir, une certaine Kaina sur le site d'Allociné. Niveau personnage maintenant. Anna, donc c'est l'héroïne de Girls, est insupportable. J'ai vraiment envie de lui crever les yeux. Elle abandonne absolument tout, que ce soit ses projets ou ses relations. Franchement, je n'ai pas envie, ça c'est intéressant, je n'ai pas envie de regarder une série pour y retrouver mes pires défauts. Elle est aussi égocentrique et même méchante parfois. Qui aurait envie de regarder toute une série avec un personnage principal tout sauf attachant ?
Ah, c'est ça la question ce soir. Question. Mais après, on va reparler de personnages qu'on n'aime pas. Mais première réaction, Romain.
Ah, mais mille fois oui, je ne veux que des personnages que je n'aime pas. Il y a une de mes séries préférées, ça s'appelle Difficult People. Je déteste les deux personnages principaux de cette série. Les personnages dans Casual sont pas super aimables non plus. Non, moi je trouve qu'on peut très bien être fasciné par une série sans avoir aucun amour.
Mais c'est quoi le ressort alors ?
probablement retrouver chez eux nos travers les plus
cyniques. Oui, mais du coup, vous entretenez quand même une relation affective avec eux. Moi, je parle de personnages vraiment ou justement pour lesquels on n'éprouve rien. Moi, le seul exemple que j'avais en tête, du coup, c'est Jack Bauer dans 24 heures chrono, où j'ai vraiment tout regardé. Et en même temps, Jack Bauer, j'ai aucun attachement.
Alors, autant Jack Bauer, je peux l'aimer, autant moi, c'est sa fille, par contre. Avec qui j'aurais beaucoup plus de mal.
On me semble tous d'accord, je pense, là-dessus. Regarder sans aimer et regarder parce qu'on n'aime pas. Enfin, c'est presque ça aussi la question.
Mais c'est une nouvelle génération, en fait, d'anti-héros que vous citez, d'hommes tourmentés, pour citer ce livre-là. Et je trouve que c'est intéressant de terminer par Lena Dunham et ce personnage dans Girls, parce que c'est vrai que je trouve que c'est une vraie force, en fait, d'avoir des personnages féminins qui sont juste pas aimables. Moi, dès la saison 1, je l'ai trouvé très désagréable. Ce personnage d'Anna, mais absolument fascinante et nouvelle aussi. Et je pense aussi à un personnage qui s'appelle Olive Kittredge, qui était une mini-série HBO. Une femme d'une soixantaine d'années vraiment désagréable, mais absolument fascinante. Et pour faire la transition avec Transparente, moi, je trouve que le personnage principal de Transparente, Maura, n'est pas un personnage aimable. Et pourtant, nous l'aimons.
Alors ça, on va en reparler dans un instant, mais Antoine Guillot, sur cette question.
Moi, vous savez que j'ai un goût pour les personnages mal aimables en général et détestables si possible. Donc moi, j'irais même plus loin, c'est est-ce qu'on peut regarder des séries qu'on n'aime pas, des séries qu'on trouve lamentables mais qu'on regarde quand même, des séries comme Under the Dome, comme Preacher par exemple, qui sont vraiment très mauvaises, mais pour lesquelles on peut éprouver un plaisir coupable de se perdre aussi dans ces personnages. Après, moi, les personnages les plus atroces, les plus mal aimables que j'ai vus, c'était dans une série anglaise des années 90 qui s'appelait Tom, qui était, mais qui atteignait une telle abjection dans le personnage qu'on touchait à un burlesque hardcore, c'était du Laurel et Hardy qui allait très très loin. Donc il y a aussi ce plaisir de se salir en regardant une série et en espérant pouvoir être un jour aussi sale que les gens qu'on regarde.
Oui, non, mais le cas de Bottom, là, c'est la jouissance de voir des choses absolument innommables, tant au niveau comportemental, amical, et tout ce qui est de l'ordre physiologique aussi, qui était quand même
très, 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 bas.
Très présent dans cette...
Tout est dans le titre.
Oui, enfin oui, Bottom. Et du coup, j'ai oublié l'exemple que je voulais citer à l'instant, parce que vous m'avez rappelé Bottom, et j'ai très envie de voir cette série, évidemment. Mais c'est cette question, hein, peut-on regarder une série dans les personnages qu'on n'aime pas? Moi, une de mes séries préférées de tous les temps, c'est Profit, qui s'est arrêtée au bout de 5 ou 6 épisodes, tellement le personnage principal était peut-être l'un des personnages les plus déplaisants de toute l'histoire, de toutes les séries télé. Et là, c'était inacceptable pour le diffuseur même, qui a donc s'aborder cette série parce qu'elle, mais là c'est parce qu'elle tendait un miroir tellement violent aux États-Unis et au monde libéral capitaliste et à la télévision, puisque c'est quand même un enfant qui a grandi dans un carton avec comme seule fenêtre sur le monde la télévision. On avait donc reçu toutes les horreurs possibles qu'on pouvait faire dans les comportements, donc c'était extrêmement violent. Moi, je trouve que c'est, mais là on arrive à un niveau de désagréabilité qui était vers l'animalité quasiment, qui rendait la série insupportable. Mais c'est vrai que c'est compliqué de tourner autour de cette question, Lucille, parce que il y a les séries qu'on aime parce que ce sont des personnages détestables, c'est Bottom, c'est Profit d'une autre façon, et puis il y a des séries qu'on regarde en effet avec des personnages qui nous insupportent, mais ça c'est un autre type de plaisir coupable, c'est Under the Dome, hein, quand on pense que c'était quand même Barbie le héros, enfin, si mes souvenirs sont bons, le personnage masculin viré qui rajoutait quelque chose d'assez drôle, mais on a regardé ça avec délectation, Antoine. Hein,
j'en témoigne, il y a un moment, et c'est aussi le principe de la série, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, entre deux exercices intellectuels de haute volée, on est ravi aussi de s'abandonner à quelque chose d'un peu nunuche.
Oui,
par moment, mais c'est un vrai plaisir important de la série, je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer. Ce n'est pas la série forcément qu'on recommandera à tout le monde, je ne sais pas, Arnaud, ce qui nous a pris de le dire maintenant à l'antenne devant tout le monde, mais qui fait partie, je crois, des plaisirs importants de ce sorte de flux que sont les séries aussi. C'est-à-dire qu'on les réhabilite beaucoup, on dit ce sont des objets culturels formidables, mais c'est aussi parfois de la menace.
La question que je voulais poser aussi, mais elle est liée, c'est est-ce qu'il existe des séries qui ne fonctionnent pas sur vraiment sur la constitution de personnages censés être justement intéressants aux yeux des téléspectateurs, que ce soit une relation d'amour ou de haine. Est-ce qu'il existe des séries de pure action ou de pure intrigue ligue? Parce que vous disiez tout à l'heure hors micro, Antoine, est-ce qu'il existe une telle distinction?
Bah, on parlait de 24 heures tout à l'heure, ce sont quand même les fameuses séries plot-driven.
Mais en dehors de 24 heures, en fait, on se rend compte qu'il y en a assez peu.
Mais dans 24 heures, on a 7, 9 saisons, je ne sais plus, mais on a cessé de constituer une psyché, pour le coup, à Jack Bauer. On a quand même été creusé, les scénaristes ont sans arrêt ajouté des éléments qui commencent par cette mort terrible de sa femme
au dernier épisode de la première saison. Au bout du compte, c'était oublié très vite. Ça reste quand même un masque qui nous entraîne dans une intrigue.
Je pense que la série a perdu en force à mesure qu'effectivement les scénaristes essayaient de mettre de l'humain dans Jack Bauer. C'est ce qui a entraîné sa perte, mais ce qui répond aussi à la question de Lucille. Un autre exemple, Romain Burel.
Une chaîne comme CW est pleine de séries avec des personnages qui sont, voilà, qui ont une ligne de caractère.
Gossip Girl,
par exemple.
Oui, mais non, mais sinon, l'autre exemple, c'est la télé-réalité. C'est-à-dire que vous regardez Secret Story et vous regardez...
Mais moi, je pense que ça vient de là, en fait.
Ben oui.
Je pense qu'en fait...
Le héros ordinaire.
Oui, ou l'anti-héros, c'est-à-dire l'anti-héros ordinaire. Tout ce qu'on déteste et qui finalement qui marche et qui, que les gens regardent absolument, alors que finalement, ces gens, on n'irait pas dîner au restaurant avec eux, quoi. Mais on veut absolument savoir ce qu'ils font, etc., et ce qu'ils vont devenir. Donc, c'est assez étrange. Je vous dis, beaucoup de séries aujourd'hui sont basées sur ce genre de personnages aujourd'hui qu'on n'aime pas, qu'on ne voudrait jamais fréquenter.
Game of Thrones.
Totalement.
Hein, les trois quarts des personnages.
On sauve peut-être un ou deux personnages à peu près humains, corrects, on va dire.
Quoi.
Exactement. Voilà, et après le reste, voilà, c'est une partie incroyable. C'est la frange de l'humanité, après.
Bon, voilà. Quelques réponses sur cette question, mais qui... Hein, on tourne encore autour, hein, Lucille Pomo.
Vaste.
On verra quelle sera la prochaine. L'heure des recommandations de nos critiques présents ce soir a sonné. Tiens, pour la peine, c'est Antoine Guillot qui va commencer avec la saison 2 de Gomorrah qui nous arrive sur Canal+.
La saison 3.
3 ?
Alors moi, la saison 2 de Gomorrah, pardon, je croyais qu'on passait déjà à Transparente, parce que je suis très...
Bah,
écoutez, on parlait de personnages mal aimables et de personnages qu'on déteste ou même pour lesquels on n'a aucun intérêt. C'est ce que je trouve formidable dans Gomorrah, justement, parce que c'est une série qui va à l'encontre de l'héroïsation ou de la fascination qu'on peut avoir pour le mafieux et la figure du parrain. Là, tous les personnages sont vraiment lamentables et filmés comme tels et c'est une manière de raconter dans la ligne droite du livre de Roberto Saviano comment la Camorra à Naples et dans sa région n'a rien de glamour, n'a rien d'excitant. Ce sont des petits messieurs, voire des petites dames, parce qu'il y a un personnage dans cette saison 2 dite Chanel qui reprend les affaires pendant que son fils est en prison, qui sont tout à fait lamentables, qui sont des gagne-petits, mais très très féroces, très très méchants. Alors, pour ceux qui avaient vu la série, il se terminait par l'évasion du parrain local Don Pietro qui s'était fait passer pour débile après son arrestation. Enfin, il a atteint une sénilité précoce et qui en fait c'était pas vrai du tout. Il s'est enfui. Sauf qu'entre temps, tous ses anciens affidés se sont partagés le territoire. Mmh. Et lui, tel un docteur Mabuse, et c'est ce qui est très fascinant dans la saison, il va se cacher quelque part comme tant de mafieux se sont cachés dans des caves ou des bergeries et va l'air de rien à l'aide d'une unique messagère piloter tout ce petit monde pour les pousser dans leur travers naturel qui est celui de s'entretuer pour des raisons de malentendus ou de territoire. Donc, ce qui crée une sorte de ventre mou assez étonnant à l'intérieur de cette deuxième saison parce que le temps que tout ça se mette en place, on voit tous ces personnages se chercher querelle sans arrêt, mais dire non, faut qu'on fasse la paix, évidemment. C'est la fable du scorpion et la grenouille, quoi. Et vraiment, ils peuvent pas s'empêcher de faire des conneries et l'autre en profite. Et c'est très 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 bien mené, assez bien réalisé par Solima, le fils de Sergio Solima, donc Stefano Solima, le fils d'un des papes du western spaghetti, et par Francesca Comencini, et le tout donne une image un peu glauque, verdâtre, dans les marrons de la série, et ça reste très agréable, surtout d'entendre du napolitain en permanence. Donc moi, qui l'avais vu en version italienne avant que ça passe, même en italien, il y a des sous-titres, parce que personne ne comprend rien à ce qu'ils disent. Donc c'est une belle série poisseuse et déprimante.
Ah non, le napolitain, l'italien, il y a quand même une grande marge. Ça passe à partir de quand ? C'est sur Canal+.
Ça passe sur Canal+, à partir du 29 septembre. Donc c'est commencé, en fait, voilà, depuis quelques jours.
Ah bah très bien. Deuxième recommandation, High Maintenance. Romain Burel.
Oui, c'est une web-série au départ, portée par un couple qui s'appelle Ben Sinclair et Katja Blindfold. J'espère que je n'écorche pas son nom.
Moi, enfin, j'appelle surtout Blichfeld, mais
Blichfeld,
c'est comme vous voulez. Hein. Blindfold, c'est un autre type de jeu.
Et qui raconte l'histoire d'un dealer qui passe livrer ses clients new-yorkais à vélo. Ce qui est assez bien vu dans cette série, c'est que notre ami dealer en fait ne sert jamais de passe-plat pour nous faire découvrir les New-Yorkais dans ce qu'ils ont de plus narcissique, barré, insupportable, stressé. On se rend compte que la vie new-yorkaise est une ville si stressante qu'il faut absolument avoir un peu de bœuf le soir pour s'endormir.
Il livre partout ?
Il livre à vélo, donc en fait, sur Manhattan comme un garçon, quoi, sûrement. Mais c'est vrai que c'est une série assez réjouissante, pour le coup, assez inégale. Parce qu'en fait, elle dépend beaucoup de la galerie de portraits qu'on aborde selon les épisodes. Ça va de l'homosexuel vrai, qui fait croire qu'il a des addictions alors qu'en fait, qu'il n'en a pas du tout, etc.
Parce que c'est tendance quand même.
Exactement.
Ouais.
À la musulmane, un peu qui a une double vie, très voilée d'un côté, puis en même temps un peu plus punk de l'autre côté. Ça, c'est vraiment assez savoureux. La série est excessivement bien tournée. Il y a quelque chose d'assez frais, et puis il y a un humour comme ça qu'on trouve assez délicieux à découvrir, parce que mine de rien, raconter la weed aux États-Unis, c'est pas la même chose que la raconter en France. On n'a pas le même rapport. D'abord parce qu'elle est souvent légalisée là-bas. Mmh. Je crois pas à New York. Je crois qu'il y a
en Californie, il y a plus de quelques États. Ouais.
Mais voilà, mais c'est vraiment mettre l'Amérique devant ses responsabilités au niveau de la weed et de la drogue et comment ça se passe pour eux de dire comment je peux surmonter ma vie new-yorkaise uber stressante à grands coups de spliff.
Et avec cette, vous le disiez avant que ne débute l'émission, cette tendance nouvelle d'aller chercher les web-séries qui marchent pour les mettre sur le petit écran cathodique, comme on le disait
en ce
avant.
En ce moment, c'est la folie. C'est ouais. Incroyable de voir le nombre de web-séries. Je crois que toutes les chaînes les signent à tour de bras dès qu'il y a quelque chose qui marche un petit peu. Il y a eu le cas d'une série qui s'appelait Awkward Black Girl, qui était une web série qui va être adaptée maintenant sur HBO, qui s'appelle Insecure, qui est très très attendue. Après qui doit remplacer
Broad City, qui avait
exactement.
Aussi commencé.
Exactement. Voilà, il y a une espèce de vivier là. Les chaînes commencent à comprendre que c'est là que ça se passe et donc décident de signer tout et à peu près n'importe quoi aussi parfois pour les adapter pour le petit écran.
Mais l'adaptation, elle est vraiment juste avec un budget plus important et les moyens. L'esprit reste.
L'esprit reste avec un budget qui se voit très souvent, parce que vraiment, ouais. sur le web, notamment je pense à Awkward Black Girl, qui était vraiment assez mal tournée, avec des prises de son assez lamentables, etc. Là, on attend de voir ce que HBO va en faire, quoi. Parce que c'est HBO.
Il y a les moyens. High Maintenance, c'est sur OCS City, en ce moment, cette série de Ben Sinclair et Katja Blichfeld. Répétez après moi, Blichfeld. Très bien. Iris Bray, Better Things, Pamela Adlon, Louis C.K. Dès qu'il y a Louis C.K., on a envie de regarder de toute façon.
Moi, non. Mais
ah bon, vous, non. Non. C'est vrai. Ah, c'est intéressant.
C'est autre chose. Mais je vais vous parler d'une série qui est lumineuse, parce qu'après Gomorrah et son tout verdâtre et High Maintenance, qui se passe vraiment, qui est nocturne.
Et loin de chez nous, quand même assez glauque.
Eh bien, je vais vous parler de Los Angeles, la ville où il fait toujours beau. C'est une série, pour moi, qui est l'anti-Westworld, parce qu'on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, mais cette semaine sort l'énorme production HBO Westworld, qui va devenir votre nouveau Game of Thrones.
Donc, on en parlera dans la prochaine dispute série, ça voilà. C'est certain, on laisse les premiers épisodes se dérouler.
Eh bien, donc, autant Westworld est écrasante, autant Better Things est quelque chose d'extrêmement léger, avec un seul personnage, ce qui parfois fait du bien, parce qu'il ne se passe pas, on n'a pas trois niveaux d'intrigue dans trois mondes, on ne sait plus vraiment où on est. Là, nous sommes juste dans une ville avec une mère célibataire qui a trois enfants et qui est un peu une comédienne de plus de 40 ans, donc un peu ratée, mais qui essaye de faire son comeback. Et tout ça est extrêmement bien écrit et très drôle. Et on parlait justement de marijuana dans High Maintenance. Ici, c'est sa fille qui demande à sa maman « Est-ce que je pourrais avoir un peu de marijuana bio ?» Parce qu'on est à LA, il faut s'en souvenir. Et sa mère lui explique que ce genre de choses, elle ne veut pas le savoir. C'est une femme donc qui vit aussi avec sa propre maman. Donc, on a trois générations dans une maison. Ça paraît très simple comme ça, mais c'est... Je sais pas, pour moi c'était juste très drôle et très rafraîchissant de d'avoir voilà, c'est presque du one woman show, mais ça va un peu plus loin et puis ça prend le temps en fait. J'aime bien les séries, voilà, il y a un peu cette nouvelle salve en fait de séries qu'on a vues récemment qui prennent le temps, qui sont pas tout le temps dans l'action. Et j'aime bien m'embêter en fait avec cette femme et la voir face à ses trois filles totalement débordées. C'est une série qui n'a pas encore été achetée en France, mais je pense que Canal+ et OCS vont se ruer dessus parce que voilà, je pense qu'on y a un peu voilà cette mode aussi hein, de ces femmes qui font rire comme Amy Schumer qui elle aussi a su transformer voilà son one woman show en série. Et là, c'est un peu la même chose qui se passe avec Pam Adlon, qui est un petit bout de femme très drôle.
Et c'est elle qui joue le rôle principal.
Donc, exactement. Donc là, c'est l'anti-Fred Scotland. Hein. Mais c'est autre chose. C'est-à-dire que oui, elle joue dedans aussi, mais avec peut-être un peu plus de finesse.
Et alors donc, quand même, comme vous avez suggéré que vous n'aimiez pas Louis C.K., ça vous regarde, mais qu'est-ce qu'on sent de sa patte alors dans cette série qui, là, vous convient ?
C'est une bonne question. Ce qui me dérange avec Louis C.K., en fait, c'est le côté beauf totalement assumé qui, moi, me fait pas du tout rire, en fait. Et là, je trouve que ça a été évacué. Et je trouve que Louis C.K., en fait, utilise souvent l'humour pour... parce qu'il est mal à l'aise avec certains sujets et Pam Adlon utilise l'humour mais au moins pose un vrai regard sur les sujets et va un peu plus loin. Je trouve qu'il y a plus de profondeur en fait tout simplement dans Better Things.
Bon, et ça arrange aussi le cas de Louis C.K. de travailler avec Pam Adlon, donc si je vous écoute. Hein. Better Things, donc avis aux acheteurs français, oui. La prochaine série qu'il nous faut voir en France.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et nous poursuivons cette dispute consacrée ce soir aux séries avec Transparent, dont j'ai compris le titre quelques heures avant l'émission. Non mais il faut que je le dise quand même. Tout d'un coup, j'étais sur mon ordinateur au bureau.
Jamais trop tard.
Et j'ai dit, mais ah d'accord, Transparent. Mais comme j'étais pas seul dans le bureau, ça m'a rassuré. On va expliquer pourquoi. OSC City va diffuser prochainement la saison 3, inédite en France. Un retour donc ce soir sur une série déjà existante pour un bilan et un peu de prospective, en effet, pour savoir ce qu'on peut attendre cette troisième saison. Pour rappel, le point de départ, c'est donc une famille juive de Los Angeles, où il fait beau toute l'année. Les parents sont séparés depuis un certain temps déjà. La mère est remariée, le père, professeur d'université à la retraite, vit dans une grande maison à Pacific Palisades, donc des beaux quartiers de LA. Trois enfants, Sarah, une quadragénaire qu'on devine assez vite Desperate Housewife, Josh, le branché qui travaille évidemment dans le monde de la musique et puis qui enchaîne les conquêtes féminines sans lendemain, et puis Ali, je crois que c'est votre préférée, Lucille, la Benjamine, la plus brillante intellectuellement mais qui n'arrive évidemment jamais à mener à bien quoi que ce soit, ni dans sa vie professionnelle, ni dans sa vie amoureuse. Donc voilà, tout ça est assez simple déjà, mais ça va être plus compliqué quand Mort, le père de famille, va faire son coming out de transsexuel et devenir Mora.
So I have something to tell you.
Oh my god. I have to tell him.
No.
Yes.
Allie's crazy.
Tell me what?
Dad is a woman.
Does mom know?
Of course I know that. You think I'm a dummy?
It's his thing. It's his little private kink. Everyone has one. Right, Rabbi?
Well, I guess everyone has, you know, one or two. The reason that
I
feel so
strong. I have three kids. I can't live without my kids. Sarah's my oldest.
I was thinking about inviting Tammy and Grace over for a play date.
Does Len know that you've spent your entire college years wasing it up together?
I like lesbians. There's Joshy.
Okay, back.
He's my very successful son. He's always a different girlfriend.
Where are you going? Let's just hang up.
You really don't want to be alone, do you?
Then there's Allie.
Did you get a job yet?
Twerkout.com. That's our thing.
That's what I thought.
She just doesn't seem to be able to land. People live secret lives. And people live very lonely lives. Life is complicated.
It really makes sense to me.
You look like
like you're underwater, Uncle Joshua.
We're both underwater.
Yeah.
This whole house is under the ocean.
You know, this is a really big journey that we're on. And you've just started on it.
Well, you still make sense to me. Your message.
You just help me out here. Are you saying that you're going to start dressing up like a lady all the time?
Honey, all my life.
Transparent. Vous aimez pourquoi transparent? Transparent. Bon, parent trans, bon, mais voilà, transparent. Heureusement que j'ai compris avant l'émission pour ne pas vous demander ce soir pourquoi ce titre-là. Ce qui m'aurait valu effectivement un grand moment de solitude. Mais j'ai envie de commencer par Lucille Como parce que depuis qu'on regarde cette série au bureau, bon, je vous le dis tout de suite, j'adore. Transparent, et Lucille est désespérée par cette série, donc c'est vous qui commencez, Lucille.
Ouais, non, mais en plus, vraiment, je suis très bonne cliente, je tiens à le dire, de séries, et j'en vois beaucoup, et je m'attache assez. Et là, c'est vrai que je partais plutôt bien, et notamment grâce au générique, dont je me suis rendu compte que je continue d'ailleurs à l'aimer beaucoup, j'aime beaucoup le générique.
C'est un jouet au piano, le générique de série télé.
Vous le jouez au piano mignon. Chez vous Sublime. Non, mais il est mignon, alors il y a du rose, c'est une sorte de montage, voilà, d'images d'archives. Qu'on peut deviner années 80, années 90.
1er janvier 94, c'est marqué à chaque fin de générique.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, puis parce qu'il y a des flashbacks en permanence sur cette année-là, donc l'année 94. Et donc, ça incite à... Enfin, c'est clairement un message pour nous dire, bon, les personnages sont sympathiques, vous allez les aimer. Moi, je ne supporte pas les personnages, mais vraiment, je ne les supporte pas. Je les trouve absolument exaspérants. Et pour le coup, je trouve qu'en dehors de l'intérêt qu'on peut porter à ces personnages, intérêt affectif, vraiment, il n'y a pas grand-chose pour étayer la chose, quoi. Je trouve que, par ailleurs, il y a un énorme problème de vraisemblance, parce que ces personnages donc, qui sont confrontés à leur père devenant trans, c'est dès le départ, c'est le début, hein, c'est le
elle
premier
ne devient
épisode.
Pas. Elle est trans.
Oui, voilà, elle est trans et qui devient une femme,
pour le fait,
voilà, et qui le dit, remet en question plein de choses dans la vie sexuelle de ses propres enfants et de sa femme, de son ex-femme aussi, ce qui est intéressant en soi, mais les premiers épisodes font à une vitesse folle, c'est-à-dire que d'un seul coup, tout est déréglé, tout le monde a des expériences de type... De toutes les sortes, et vraiment c'est totalement invraisemblable, quoi. Et puis surtout ça gâche quelque chose, parce que ça, on a presque l'impression qu'au bout de 2-3 épisodes, bon bah voilà, la question du genre a bien été installée, c'est la question du jour, et c'est fini, quoi. On sait plus ce qui peut se passer, tous les personnages ont épuisé leurs possibilités, et on voit pas ce que ça peut devenir. Bon, après c'est vrai que j'ai vu qu'une saison et demie, hein, je tiens à le dire, j'ai vu la première saison et un bout de la saison 2. Je trouve que la fin de la première saison et le début de la seconde saison sont un peu plus intéressants, parce que justement elle se calme, les personnages sont un petit peu moins hystérisés et on peut peut-être repartir sur des bases un peu plus intéressantes, bah, du point de vue de l'intrigue. Mais les personnages me paraissent quand même exaspérants.
Bon, ça c'est une chose, les personnages exaspérants, et on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Je vous invite à poursuivre le visionnage de cette saison 2 que je trouve très, très riche à bien des égards. Quand même dire aussi que je n'ai pas dit le plaisir immense de retrouver Judith Light. On l'a vu dans Madame est servie, qui joue la femme de Morte Mora. Ça, c'était un autre type de plaisir, un peu coupable, mais quand même qui fait du bien. Romain Burel, premier regard sur Transparent.
Alors, je comprends tout à fait ce que dit Lucille, mais je ne pense pas que la série soit basée sur des personnages, je pense qu'elle est basée sur des émotions. Et que la grande force de cette série, c'est qu'elle nous raconte des émotions provoquées par le coming out trans de ce père, donc qui maintenant est, enfin, assume d'être une femme maintenant, puisque c'est de ça dont il s'agit, et concrètement d'aimer ces personnages ou pas, surtout à ce moment d'hystérisation, forcément. J'ai presque envie de dire avec la formule, voilà, avec l'étymologie du terme, puisqu'il s'agit voilà de leur père maintenant qui est une femme. Et c'est vraiment ce qui me fascine le plus. Et quand vous dites que c'est pas vraisemblable, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, Jill Soloway, la créatrice de la série, s'est inspirée de ce qui lui est arrivé à elle. Il se trouve que son père a fait son coming out en 2011, je crois, son coming out trans, et que c'est ce qui a nourri le canevas premier de la série. Donc en fait, c'est tout à fait possible Et ça arrive, la preuve, ça lui est arrivé.
Enfin, la question de la vraisemblance dans les séries, là, alors là, on a ouvert une boîte de Pandore, on en a pour des heures sur cette question-là, parce que, bon, mais c'est vrai que, oui, j'ai lu ça quelque part aussi, qu'il y a un point de départ qui est vraiment, on ne peut plus proche de la créatrice. On fait un premier tour de table, Iris Bray.
Ah bah pour moi, c'est tout simplement la meilleure série qui existe. Enfin, moi, je trouve que... Moi, pour moi, c'est le génie, en fait. Transparente, je trouve ça génial à tous les niveaux. Je trouve que c'est d'une puissance esthétique, une puissance émotionnelle. Et vous disiez, Romain, que c'était une série basée sur les émotions, mais c'est aussi une série basée sur les idées, des idées avec lesquelles on n'est pas très à l'aise en France. C'est quelqu'un, en fait, qui a... Jill Soloway, donc la showrunneuse, la créatrice, qui a su mettre en scène en fait toutes les idées qu'on a dans les études de genre, que ce soit Judith Butler, c'est-à-dire que c'est une créatrice qui a su prendre ces idées-là et les mettre en scène de manière brillante. Et les personnages peuvent être extrêmement agaçants, moi aussi ils m'agacent, mais ils racontent énormément de choses et ils nous mettent mal à l'aise. Et je pense que c'est totalement vraisemblable quand votre père vous dit qu'en fait ça va être votre maman, puisqu'on va vers ça, elle va vraiment vouloir ne plus devenir, d'abord elle est surnommée Mopa, hein, une contraction entre mother and papa, puis dans la saison 3 elle va leur demander de l'appeler maman, vraiment. Je pense que c'est vraiment brillant en fait de voir à quel point, quand on comprend que notre parents ont une identité de genre et ont une sexualité, comment nous, en tant qu'enfants, on est aussi dépendants finalement de ce qui se passe avec les générations d'avant, c'est-à-dire les parents mais aussi les grands-parents. Et c'est ce que Soloway explore aussi dans la saison 2. Quels sont les secrets, en fait, et comment est-ce que nous, enfants, on est réceptacle de ces secrets, et comment nous, notre vie sexuelle, ce n'est pas que lié à notre identité de genre, mais c'est aussi lié à l'identité de ceux qui viennent avant nous.
Vous en parlez fort bien, Iris. Antoine Guillot sur Transparent.
Alors, je suis ravi que cette série ait été programmée ce soir, parce que j'étais passé à côté en me méfiant un peu d'un effet de mode qu'il y a en ce moment, justement, sur les questions de genre, de trans, avec les premières apparitions de comédiens trans dans Orange is the New Black, par exemple, etc. Donc, voyant le projet, je me méfie un peu, donc je me réjouis vraiment de m'être plongé dedans, parce que je trouve effectivement que c'est sans doute la série la plus excitante qu'il y a intellectuellement parlant, et pas seulement en ce moment. D'abord, le bonheur d'un comédien exceptionnel qui est Jeffrey Tambor, qu'on avait vu dans des seconds rôles, dans des séries, à la télévision, au cinéma aussi, avec cet invraisemblable sourire inversé qu'il a et cette air de porter toutes les détresses du monde comme s'il avait fondu, son visage avait fondu, mais encore plus que celui de Droopy, quoi, vers le bas. Et avec cette chose incroyable qu'il arrive à nous faire croire à son personnage. On parle de vraisemblable ou pas, ce personnage de Mora existe réellement, à tel point qu'on voit un personnage réellement inédit, qui n'est pas identifiable, mais qui a une puissance vitale assez désespérée en même temps, et qui intervient dans cette seconde saison. On fait apparaître le personnage de Magnus Hirschfeld, qui était ce théoricien allemand, le premier à avoir réfléchi à la question homosexuelle, à la question de trans, justement. C'est lui-même qui a créé ce terme-là, et qui parlait d'un troisième sexe. Et c'est ce qu'on voit apparaître à l'écran, réellement, non seulement dans ce personnage de Mora, mais aussi dans tous ces personnages de transsexuels réels qui jouent des rôles de transsexuels dans la série.
Ils ont transgenre, puisque transsexuel, c'est quand on a eu une opération.
Transsexuel ou transgenre, enfin trans, on dira en général, mais qui en tout cas apportent vraiment des personnages qui sortent en plus du pittoresque, du freak show, etc. Et qui arrivent avec, effectivement, des problématiques et des douleurs même qu'on voit apparaître sur les personnages, de même qu'un boxeur va arriver avec sa tête cabossée. Ces personnages arrivent avec leur force physique. Et ce que je trouve très frappant aussi, c'est que pour l'instant, les personnages de trans, transsexuels, tout ce que vous voulez, qu'on voyait à l'écran, notamment au cinéma, c'était plutôt genre The Crying Game ou Mr. Butterfly, c'est-à-dire qu'on jouait beaucoup sur est-ce que c'est un homme ou une femme, il est tellement beau, il est tellement séduisant, etc. Là, ce n'est plus du tout cette problématique-là. Et cette manière de montrer des corps fatigués, vieillis, pas dans les canons de la mode, quels que soient les personnages, parce que même les personnages des enfants, et notamment des deux filles, je trouve ça très fort de montrer un personnage de quadragénaire avec le poids des ans sur un corps, les hanches qui ont épaissi, les seins qui tombent un peu, etc. Et de les montrer dans leur beauté humaine.
Sans parler de l'apparition d'Angelica Houston. Il faut aller à la fin de la deuxième saison. C'est absolument bouleversant d'avoir arrivé.
Un summum avec Angelica Houston, mais aussi avec des personnages de vieilles lesbiennes qui sont montrées dans une beauté du corps que je n'avais jamais vu figurer de cette manière-là. À l'écran, pas souvent, mais alors à la télévision, il me semble effectivement que c'est une vraie première à cause de la générosité du regard qui est posé sur ces personnages.
Alors, moi aussi, je me réjouis de cette dispute série qui m'aura permis cette découverte tout à fait essentielle. Et en fait, ça a commencé dès le premier épisode pour une raison qui peut paraître un peu étrange, c'est que je trouve que la dimension artistique du film, de la série est absolument prodigieuse, parce que j'étais très frappé par les intérieurs de tous les personnages. Quels qu'ils soient, on a l'impression qu'ils habitent là depuis des années. Enfin, il y a quelque chose d'une précision, d'une finesse dans les détails. Enfin, il y a la patine qui est là. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement juste qui est à peu près toujours raté, que ce soit en série télé ou au cinéma. On voit toujours des décors. Là, j'ai vu des maisons voilà, qui ressemblaient aux gens qui habitaient dedans. Donc, ça, c'est quand même un effet qui est immédiat. La thématique, bien sûr, on en a parlé, est importante. Scène de sexe, quand même, peu conforme aussi avec ce qu'on peut imaginer venir des États-Unis. Alors, la question, peut-être, qui s'adresse aux spécialistes. On n'a pas dit que c'était une série produite par Amazon. Est-ce que c'est ce producteur-là qui a cette politique là d'aller sur les tabous sans problème et de se positionner comme ça aussi d'une certaine façon, pour être un peu cynique aussi, Iris Bray?
Je pense que le fait que ce soit Amazon change la donne totalement. C'est le genre de série qui ne pourrait pas exister sur un network. Hein. Ça pourrait difficilement, à mon avis, exister sur HBO.
Et on Full frontal nudity, c'est pas possible.
En fait, ça commence un peu à venir.
Il y en a sur HBO. Mais,
HBO
pas les networks. A besoin toujours qu'on ait du sexe gratuitement. Là, le sexe n'est jamais gratuit dans Transparente. On a une liberté de ton totale pour ces showrunners. Et c'est pour ça que Netflix et Amazon réussissent à faire éclore de nouvelles voix.
Antoine Guillot, toute petite.
Oui, vous parliez de la dimension artistique, mais il y a aussi une dimension de la mise en scène qui est très importante. C'est-à-dire que Jill Soloway réalise la plupart des épisodes, mais même quand
c'est Andrea Arnold, c'est pas mal.
Oui, mais même quand c'est Andrea Arnold, dont j'aime de moins en moins ce qu'elle fait au cinéma, il y a une unicité dans la mise en scène dont on sent qu'elle est très très écrite, qu'elle fait partie de la Bible. Depuis Breaking Bad, je n'ai pas vu de série aussi pensée dans la mise en scène, et ce côté effectivement qui va vers le cinéma indie, mais qui en tire le meilleur.
Et l'utilisation de la musique qu'on n'a pas évoquée, on pourrait faire une émission là-dessus. Romain Burel.
Oui, qui est vraiment sublime dans cette série. Moi, j'avais un petit peu la même appréhension qu'Antoine sur l'idée de voir cette série-là, parce que tout simplement, j'avais pas envie de voir un personnage, un acteur cisgenre, c'est-à-dire qui est en adéquation avec son genre de naissance, jouer le rôle d'un personnage trans à la télévision. Et puis finalement, c'est vrai que Jeffrey Tambor a fait une telle performance qu'on pardonne ça aussi à la série.
Oui, parce qu'il est terriblement émouvant. Iris, il faut regarder.
Oui, il faut regarder, parce que je vais vous dire, c'est le genre de série où vous pleurez. Pourquoi ? Parce que le plan est magnifique et c'est pas à cause de l'intrigue.
Ce sera le mot de la fin sur Transparent de Jill Soloway, saison 3 inédite à partir du 4 novembre sur OCS City. Et nous concluons avec le jeu de la dispute. Et d'abord, un rappel sur le jeu d'hier soir. Lucille Comeau ?
Alors, la question était, en 2012, l'artiste Yann Fabre, connu pour ses provocations, doit présenter ses excuses à des associations de défense des animaux. Quelles pratiques les avaient choquées ? Et la réponse est des lancers de chats.
Et on fait gagner ce soir des invitations pour le Festival du Livre. C'était à Moinsartoux du 7 au 9 octobre, dans les Alpes-Maritimes. La question, Lucille ?
En lisière de la commune de Moinsartoux se trouve un hameau qu'on a appelé le camp de Timgad. À qui était-il destiné ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Lucille Comeau, Iris Bray, Romain Burel, Antoine Guillot, d'y avoir pris part avec moi. Les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions. Dispute possible également grâce à Lucille Comeau, Daniel Finot, Virginie Leduo, Josué Morel et Boris Pinot. Prise de son assurée ce soir par Jean-Richard Dufour, réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux arts plastiques. En compagnie d'Anaël Pijat et Yasmine Youssi, nous parlerons de spectaculaire Second Empire. C'est au Musée d'Orsay. français. The Color Line, les artistes africains, américains et la ségrégation, c'est au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Nous évoquerons aussi plus rapidement la Judd Foundation à New York et puis quelques expositions du printemps de septembre à Toulouse. Tout ça, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15. Les discussions du soir dans quelques instants, le journal de la rédaction.